Radio Prague, les informations.
Bonjour, le Premier ministre tchèque s'est engagé à lutter contre la discrimination des Roms. Ukraine, des familles tchèques de l'oblast de Volhyny demandent l'aide de la République tchèque. Et cyclisme, Roman Kreuziger termine troisième à la course Tirreno-Adriatico. En réponse à la lettre datant de la fin du mois de février du commissaire européen pour les droits de l'homme, Nils Mujeznieks, inquiet des actions menées contre les Roms en République tchèque, le Premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka a fait savoir ce lundi que le gouvernement s'opposera à toute forme de violence et de discrimination à l'égard des Roms et s'attaquera aux raisons de leur marginalisation en République tchèque. En novembre 2007, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la République tchèque qu'elle estimait coupable de bafouer le droit des enfants Roms à une éducation sans discrimination, des reproches maintes fois reconduits depuis. Le conseil municipal de la ville de Brno en Moravie s'est prononcé ce mardi sur le contrat avec l'entreprise CTP Invest qui devait être chargée des travaux du centre logistique que la société de vente en ligne Amazon souhaite construire. La firme américaine promettait l'embauche de 1500 personnes, même si les conditions de travail dans ses dépôts ont fait l'objet de lourdes critiques. Toutefois, les conseillers municipaux ont refusé les contrats avec l'entreprise CTP Invest et la direction des routes et autoroutes. La venue d'Amazon à Brno était déjà compromise, non seulement en raison des plaintes des habitants, mais surtout du désaccord entre la mairie et l'entreprise CTP Invest. Les deux parties ne sont pas parvenues à s'entendre suite à la demande d'Amazon pour que son dépôt soit raccordé à l'autoroute D1. Ce mardi, les conseillers n'ont pas apprécié le fait que la société CTP Invest travaille déjà sur certains terrains municipaux. Au total, 39 groupements politiques ont déposé leur candidature au ministère de l'Intérieur tchèque afin de participer aux élections au Parlement européen de cette année. Une année qui compte ainsi 6 groupements politiques de plus par rapport à l'année 2009. C'est le porte-parole du ministère, Vlastimil Řepka, qui l'a fait savoir ce mardi en ayant précisé que la date limite des dépôts des candidatures avait pris fin ce mardi après-midi. Les 7 partis représentés à la Chambre des députés ainsi que d'autres partis et mouvements politiques se présentent sur les listes électorales européennes. Européenne, aux côtés de nouveaux arrivants tels que le Parti libéral écologique de Martin Bursik ou le Parti Ante Bursik Stop à la terreur écologique. Quelques dizaines de familles d'origine tchèque installées dans l'oblast de Volhyny, au nord-ouest de l'Ukraine, ont demandé au ministère tchèque des Affaires étrangères de les aider à revenir sur la terre de leurs ancêtres. Ces familles craignent que la crise en Ukraine ne se détériore et qu'un conflit n'éclate avec la Russie. Dans leur lettre, elles parlent d'une situation très incertaine et d'une hausse de la criminalité. La diplomatie tchèque a confirmé avoir reçu ce document et étudie la demande. D'après Antonin Holetz, un tchèque de Volhyny rentré au pays après la Seconde Guerre mondiale, il y aurait environ 20 000 tchèques établis en Ukraine. La population tchèque a commencé à émigrer vers cette région historique qui a appartenu à la Pologne et à l'Empire russe dans la seconde moitié du XIXe siècle. Parmi tous les habitants des pays d'Europe centrale, ce sont les Polonais qui ont accueilli de façon la plus positive le changement du régime politique en 1989. 71% d'entre eux déclarent que ce changement a payé. La République tchèque se trouve en deuxième place, 63% de ses habitants sont du même avis. En Slovaquie, ils ne sont plus que 56% à penser la même chose. Les plus sceptiques à cet égard sont toutefois les Hongrois. Seuls 48% d'entre eux pensent que le changement de régime politique en 1989 a eu des effets positifs. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par les organisations partenaires du groupe CEORG. En République tchèque, l'enquête a été réalisée par le Centre pour l'étude de l'opinion publique. Le cycliste tchèque Roman Kreuziger a terminé à la troisième place après l'ultime étape de la course Tirreno-Adriatico qui se déroule traditionnellement en Italie. Le tchèque enregistre ainsi un succès incontestable à l'occasion de cette course à étapes qui a compté avec les meilleurs cyclistes du monde. C'est son collègue de l'équipe Saxo Tinkoff, l'espagnol Alberto Contador, qui s'est inscrit comme le gagnant final de la course en devançant Roman Kreuziger de 2 minutes et 14 secondes au classement général. Le double vainqueur du Tour de France de 2007 et 2009, Alberto Contador a remporté cette course à étapes pour la première fois de sa carrière. Un mot de météo pour terminer. Ce mercredi, le ciel reste couvert et des averses sont attendues sur la partie nord du pays, ainsi que dans la région d'Ostrava. Le soleil se fera plus présent dans les régions sud de la République tchèque, où il risque également de pleuvoir. Les températures maximales vont de 10 à 14 degrés. Bonne fête à tous les Josefs et à toutes les Josefas. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Restez en compagnie de Radio Prague pour la suite de notre programme et plus précisément en la compagnie de Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Denisa pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chères auditrices et chers auditeurs à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Comme Paris ces derniers jours, la capitale tchèque est elle aussi parfois avalée par la pollution et le smog. Toutefois, à Prague, aucune mesure semblable à celle de la circulation alternée décidée par les autorités françaises n'a encore jamais été prise. Nous ferons donc un parallèle entre les deux villes avec un expert de la question. Autre thème d'actualité, les départs prématurés à la retraite d'un nombre de Tchèques toujours plus important, souvent confrontés au chômage à un stade avancé de leur vie. Les Tchèques de plus de 55 ans, mais qui n'ont pas encore l'âge légal, préfèrent partir en retraite, et ce, malgré le manque à gagner. Plus de détails dans quelques instants. Et puis, comme chaque mardi, la seconde moitié de notre programme sera réservée à la rubrique Panorama. Retour aujourd'hui, une dernière fois, sur le festival du film documentaire sur les droits de l'homme Jeden Svět, un monde. Un festival qui s'est tenu récemment à Prague et en République tchèque. Très bonne écoute. Les images de la tour Eiffel, noyées ces derniers jours dans un nuage de pollution, ont fait le tour du monde. Elles ont également été vues en République tchèque, où certaines villes sont elles aussi régulièrement plongées dans le smog. À Prague, certaines mesures sont plus ou moins régulièrement évoquées, pour notamment réduire la circulation automobile. Nous évoquons la question avec Vitek Massare. Vitek Massare, qui est un responsable d'Automate, une association qui lutte depuis plusieurs années pour limiter la circulation automobile à Prague. Avant cela, Vitek Massare nous a d'abord confié son point de vue sur la situation à Paris et la circulation alternée, une décision qui n'a pas fait que des heureux.
Les jours avec des hautes concentrations de polluants dans l'atmosphère des villes sont assez communes partout dans le monde. Par contre, le nombre de villes qui décident de vraiment réagir et d'appliquer certaines mesures qui essaieraient de réduire la pollution dans l'atmosphère, ce nombre de villes est assez limité. Du coup, alors, on peut seulement apprécier que la municipalité de Paris a décidé de faire quelque chose vraiment réel pour, d'une manière, réduire la circulation automobile, qui est une des sources principales de la pollution de l'atmosphère dans la ville.
Prague, qui est certes une plus petite ville que Paris, mais qui à l'échelle tchèque est la plus grande ville, Prague est également confrontée régulièrement à des situations comme ça, des pics de pollution. Pensez-vous que les mesures qui ont été prises à Paris, à savoir interdire la circulation à certaines voitures, est-ce que vous pensez que par exemple une telle mesure serait envisageable à Prague en cas de crise grave de pollution?
Je pense que il ne devrait pas être aucun problème dans l'application de mesures pareilles comme la réduction de la circulation d'une moitié des automobiles, ce qui se passait à Paris les derniers jours, car premièrement, Prague a un des absolument meilleurs systèmes de transport en commun dans le monde. Puis, en fait, on a déjà expérimenté ici des journées avec la circulation assez limitée. C'était à la suite des inondations ou pendant les grèves des employés de transport en commun. Du coup, alors, la ville est prête à être desservie autrement, sans, disons, utilisation de la pleine quantité d'usage des moyens de transport.
Et quelles seraient plus concrètement les mesures qui seraient prises par la municipalité, par les autorités, en cas de pic de pollution à Prague?
Ça, c'est le problème, car depuis que je me souviens, la municipalité n'a jamais vraiment appliqué aucune mesure réelle, outre, par exemple, une annonce presse par l'ancienne maire de Prague qui annonçait aux médias qu'il y avait pic de pollution et il appelait aux Pragois de ne pas tellement utiliser les voitures. C'était absolument tout ce qui a été fait. C'est, disons, situation de chaos et anarchie du secteur public de Prague où, en fait, on n'a jamais, depuis 20 années, alors trop considéré des possibilités d'application d'aucune parlait d'une telle possibilité de faire des mesures régulatives, mais personne n'a jamais osé vraiment procéder.
Selon vous, vous évoquez ces mesures de régulation. Quelles seraient les mesures les plus efficaces pour améliorer la situation à Prague?
De toute façon, alors la mesure prise par Paris peut être utile ici dans notre cas, mais si d'autres mesures pourraient aider, je n'en suis pas sûr. C'est toujours une espèce de mesure nouvelle où il faut un peu expérimenter et voir ce qui vaut le coup. Comme j'ai dit avant, Prague dispose d'un des meilleurs systèmes de transport en commun, dont alors il peut être offerte, ainsi qu'à Paris, la circulation gratuite pendant des journées de pic de pollution. Puis, quand il y avait la grève de transport en commun, les médias proposaient répétitivement la possibilité de prendre le vélo pour aller faire son déplacement au boulot et retour. Et finalement, alors, beaucoup, beaucoup plus fois des Pragois que normalement ont vraiment essayé cette possibilité. Ça marchait, donc alors, il y a plusieurs alternatives.
C'était donc Vitek Massaret, un responsable de l'association Automate, une association qui lutte depuis plusieurs années pour limiter la circulation automobile à Prague. Fin 2013, on recensait près de 500 000 Tchèques partis à la retraite avant l'âge légal. L'administration tchèque de sécurité sociale, qui a publié ces chiffres lundi, remarque qu'en conséquence, ces personnes bénéficient d'une pension de retraite réduite. Ce phénomène de départ prématuré à la retraite, qui a plus que triplé depuis 2000, implique un abaissement du niveau de vie des retraités en République tchèque. C'est ce que nous explique Pierre Meignan.
Ils étaient environ 140 000, voici 15 ans. Ils sont aujourd'hui près de 500 000 à avoir décidé de quitter la vie active avant l'âge légal du départ en retraite. Un choix qui n'en est cependant pas un et qui s'apparente le plus souvent plutôt à une stratégie de secours, selon Nicolas Chimanlova de l'association Alternative 50+.
Il ne s'agit pas seulement de départ volontaire. Ce départ à la retraite est qualifié de volontaire car en fait il ne reste pas d'autre alternative pour la personne. De toute façon, l'expérience montre qu'il est plutôt question d'une stratégie de secours. Souvent, cela concerne un individu qui perd son travail et on sait que dans cette catégorie d'âge, autour de 55 ans, il est très difficile de trouver un nouvel emploi. Cette personne risque donc de tomber dans le chômage de longue durée et elle choisit alors cette stratégie de secours. Pour pouvoir disposer d'un revenu financier minimal, il n'a pas d'autre solution que de partir à la retraite prématurément.
Ces personnes, qui sont majoritairement des femmes, bien plus touchées par le chômage entre 55 et 59 ans, reçoivent donc une pension réduite en moyenne de 1160 couronnes par rapport à celle versée aux individus étant partis à la retraite à l'âge légal. Nicolas Chimandlova explique qu'il existe bien sûr de nombreuses situations différentes.
Le montant de la pension de retraite est évidemment lié à celui du salaire. Il est également variable si la personne part à la retraite 6 mois avant l'âge légal ou 3 ans auparavant. Et si vous êtes dans cette situation de départ en retraite 3 ans trop tôt, alors la baisse du montant de la pension est réellement significative.
Avec la catégorie d'âge des 20 à 24 ans, celle des 55 à 59 ans est la plus exposée au chômage, selon le Bureau du Travail. Aussi, plus de la moitié des personnes âgées de 55 à 64 ans sont inactives. Paradoxalement, alors que ce chômage atteint des niveaux records en République tchèque, avec plus de 600 000 demandeurs d'emploi en janvier, certains organismes internationaux pressent Prague de reculer l'âge du départ à la retraite au nom de la maîtrise des déficits publics. C'est le cas de l'OCDE qui présentait ce mardi ses recommandations au gouvernement tchèque. En accord avec la plupart d'entre elles, le premier ministre social-démocrate Bohuslav Sobotka a cependant souligné certains désaccords, par exemple avec la proposition de l'OCDE de mettre en place des frais de scolarité pour les grandes écoles, mais également sur le sujet des retraites.
Au cours des dernières années, nous avons déjà augmenté en République tchèque de façon significative l'âge du départ à la retraite. Je ne pense pas que nous devrions agir sur ce point et accélérer le rythme de la hausse de cet âge de départ. La raison que j'ai évoquée lors de ma rencontre avec le secrétaire général de l'OCDE est que toute une série de personnes, après 50-55 ans, ont des difficultés à retrouver du travail en cas de perte d'emploi. Nous devons également nous poser la question de la situation sur le marché du travail.
Actuellement, l'âge du départ à la retraite augmente chaque année de 2 mois en République tchèque, tandis que l'espérance de vie augmente de près de 3 mois. En 2013, les hommes nés en 1951 et 1952 pouvaient prendre leur retraite, les femmes partant un peu plus tôt, notamment en fonction du nombre de leurs enfants. Le gouvernement de Bohuslav Sobotka entend toujours revaloriser à partir de janvier 2015 le montant des pensions de retraite, en moyenne actuellement de près de 11 000 couronnes, soit environ 400 euros. Cependant, cela pourrait passer par une diversification des sources de financement et notamment par le développement du troisième pilier des retraites, un système par capitalisation auprès de groupes privés.
Voilà, c'est la fin de ces faits et événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite dans laquelle on retrouve comme chaque mardi la rubrique Panorama. Dans le cadre de la 16e édition du festival du film documentaire Jeden Svět, un monde, le public pragois a pu découvrir La chasse au snark, un long métrage du réalisateur François-Xavier Drouet. Le snark, un animal fictif créé par Lewis Carroll, est également le nom d'un établissement belge autogéré d'éducation pour des jeunes souffrant de troubles du comportement. Le cinéaste a posé sa caméra durant toute une année scolaire au cœur de cette institution. Dans la veine du cinéma direct, il filme, sans autre forme de commentaire, la vie quotidienne de ces adolescents et les méthodes pédagogiques non répressives de l'équipe du snark. Invité dans la capitale tchèque par les organisateurs du festival Jeden Svět, François-Xavier Drouet a évoqué son commentaire au micro de Pierre Maignan.
Panorama.
Panorama.
Alors le snark est une institution qui a été créée en 1973 par un groupe de personnes issues des mouvements politiques de mai 68, hein, pour faire vite, et qui portaient la réflexion impulsée par Lacan, portant en tout cas de cette école psychanalytique. Certains étaient passés par la clinique de la Borde, qui travaille autour de la psychothérapie institutionnelle, ou en tout cas on essaie de penser l'institution. On essaie de penser l'enfermement et comment l'idée de dire que voilà le finalement ce qui est malade c'est pas forcément le patient, c'est plutôt l'institution, et comment l'institution la guérit, comment on peut travailler, faire du soin sans les murs. Et voilà, donc il y avait toutes ces réflexions là au départ, et il y avait aussi un projet d'autogestion, c'est-à-dire qu'en gros on est l'autorité est diluée et les responsabilités sont tournantes, et c'est l'Assemblée Générale des Travailleurs qui est souveraine, et il y a égalité de salaire entre chacun. Enfin voilà, bon, c'est encore un reste des années 70. Moi, quand j'ai commencé le film, du temps avait passé, et forcément, ce projet s'était un petit peu perdu avec les années, mais il y en avait encore des traces. En tout cas, le SNARC accueille des adolescents de 12 à 18 ans qui sont atteints de ce qu'on dit les troubles du comportement. Alors c'est très très vaste, mais en gros c'est des enfants qui tiennent pas dans le système scolaire classique parce qu'ils tiennent pas en place, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de violence, ou ils n'arrivent pas à se concentrer, ou n'arrivent pas à nouer des relations avec les autres, ou voilà. Et le point commun de tous ces enfants, c'est qu'ils ont des problématiques familiales très très lourdes derrière.
Vous avez dit que vous avez passé 5 ans à préparer ce film. Comment s'est passée justement cette préparation? Comment vous avez eu vent? Comment vous connaissiez l'existence de cet établissement?
D'abord, j'ai été invité à La Louvière par Franco Dragon, qui est un mécène belge, et qui tous les ans invite 5 réalisateurs du monde entier à faire un court-métrage dans sa ville. Donc j'avais un mois pour faire un court-métrage et j'ai trouvé le SNARC. Tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de très fort qui s'y passait et j'avais plutôt envie d'y faire un long-métrage. Alors du coup, le court-métrage est devenu la note d'intention du long-métrage. Il s'est passé 2 ans et demi d'écriture et de repérage et de temps pour réunir les financements. Après, il y a eu 1 an de tournage et 1 an de montage, donc pratiquement 5 ans entre la rencontre du lieu et l'achèvement du film. J'ai tourné pendant 1 an, sur toute une année scolaire, à raison d'un tournage d'une semaine par mois à peu près. Donc il y a eu 1 dizaine de semaines.
D'accord. Au début, comment ça se passe, l'acclimatation, j'ai envie de dire, à la caméra et à votre présence des élèves et du personnel enseignant qui est là-bas? Est-ce que ça modifie un petit peu leur comportement?
Alors moi, je considère que la caméra modifie toujours le comportement et que ça sert à rien de vouloir se faire oublier, au contraire. Vaut mieux marquer sa présence et être accepté comme tel plutôt que de chercher à se cacher sous la table ou dans un coin, voilà. Après, c'est pas parce que le comportement des personnes est modifié ou altéré que ça n'est pas intéressant, parce que la façon dont les gens se mettent en scène raconte aussi quelque chose d'eux-mêmes. Alors avec les adolescents, il a fallu énormément de temps pour que quelque chose puisse, de l'ordre de la relation, puisse se mettre en place. Parce que j'ai pratiquement rien gardé dans le film des 3 premiers mois de tournage finalement. Parce que c'est le temps qu'il a fallu pour qu'ils puissent m'accepter, pour qu'ils puissent me connaître un peu, comprendre ce que je faisais, et aussi eux dépasser le propre cliché qui donnait d'eux-mêmes finalement. Les jeunes, notamment dans les reportages, souvent s'enferment dans une représentation très caricaturale d'eux-mêmes. Et voilà, ils ont une idée que c'est ça qu'on attend d'eux finalement quand on vient les filmer. Et voilà, donc ça prend énormément de temps pour le dépasser, pour arriver à construire quelque chose de différent. Avec les adultes, ça a été beaucoup plus rapide parce que comme ça faisait déjà 3 ans que je travaillais avec eux, voilà, bon, ils avaient confiance en moi, pour seule réserve d'avoir un droit de regard sur le montage final.
C'est quoi ce comportement qu'on attend d'eux, le rôle qu'ils se donnent et qu'ils jouent?
Oh, ça va être de surjouer devant la caméra, d'être dans la surenchère, dans les insultes, dans les gestes, mais bon, voilà, ça s'épuise très vite parce que finalement, au bout d'un moment, déjà, ça les amuse plus. Et puis, il y a un moment où la caméra, elle fait partie du décor finalement, elle est là et c'est plus un enjeu, quoi. Il y a autre chose qui se passe. Et voir, ils ont pu comprendre au bout d'un moment que ça pouvait être intéressant, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait un témoin comme ça qui participe de la vie d'institution de façon ponctuelle, c'est aussi une fenêtre ouverte sur le monde. Et dans le film, il y a certains moments où les jeunes utilisent cette fenêtre comme une adresse finalement. Ils s'adressent à moi, mais à travers moi et à travers l'objectif de la caméra, je pense qu'ils s'adressent au vaste monde et c'est ça qui est très beau.
Parce que quelle est la relation que vous avez créée avec ces enfants et avec les adultes aussi?
Alors avec les enfants, c'est très variable d'un enfant à l'autre parce que... Alors, il faut savoir qu'ils ont presque tous accepté d'être filmés. Il n'y en a que 2 sur une trentaine qui ont refusé. Et donc ça m'a donné beaucoup de liberté. Et voilà, il y en a certains avec qui on accroche, d'autres avec lesquels on n'accroche pas. Il y a certains enfants, moi, sur lesquels je ne me suis pas attardé parce qu'ils étaient dans des telles problématiques de type, pour le coup, vraiment psychiatrique, que... leur représentation, ils n'étaient pas forcément très conscients de l'image qu'ils pouvaient donner d'eux-mêmes et ils ne s'appartenaient pas toujours, donc, notamment sous l'effet de la médicamentation. Donc moi j'étais très gêné par rapport à ça. Moi je voulais vraiment que quand à un moment je me trouve présent dans une pièce avec un jeune et qu'il se passe une relation, quelque chose de conflictuel avec un adulte par exemple, il soit capable il soit en situation de pouvoir me dire non, je ne veux pas que tu sois là. Ils le faisaient très très facilement. Les jeunes ont une conscience, ils sont nés avec ces outils-là, les téléphones portables, l'image, et ils savent très très bien ce que c'est que le champ de la caméra, par exemple. Ils savent très très bien quand est-ce qu'ils sont dedans, quand est-ce qu'ils sont hors champ. Donc ils ont cette conscience-là. Donc moi, déjà, j'ai plutôt travaillé avec ceux qui finalement, qui avaient la capacité de pouvoir me dire non, je ne veux pas être là. Et puis voilà, après c'est des affinités humaines, des affinités électives, il y en a avec qui ça se passe bien, d'autres pas. Et puis c'est aussi variable dans le temps, selon le moment, les humeurs, voilà, c'est de l'humanité tout ça quoi.
Vous avez étudié les sciences sociales, la science politique, les sciences politiques, et je crois l'anthropologie, il me semble. Et comment vous mobilisez ces savoirs et ces méthodes dans votre travail de documentariste ?
Bon, je pense que voilà, plus on vieillit, après il y a tout un tas de grilles de lecture du monde qui se superposent et qui pour une partie viennent des études universitaires, pour une autre de rencontres, d'expériences professionnelles, de lecture. Voilà, donc c'est très difficile aujourd'hui pour moi de dire quelle est la part qui revient aux sciences sociales, mais en tout cas moi je suis toujours intéressé par les interactions, comment les individus travaillent l'institution et comment l'institution les travaille en retour. Donc ça c'est des thèmes éminemment sociologiques. Je suis toujours intéressé par les questions politiques. Pour moi le SNARC au départ c'est un projet politique finalement, et c'est vrai que moi je me suis ce projet me tenait à cœur parce que c'est vrai que j'ai découvert le lieu précisément au moment où Sarkozy ouvrait des centres fermés pour jeunes et qu'il y avait un discours extrêmement stigmatisant vis-à-vis des jeunes en difficulté, des jeunes délinquants. Donc voilà, j'avais envie aussi que ce film il puisse être un outil de réflexion dont les éducateurs pourraient s'emparer. Voilà. Mais ouais, tous mes films ils s'inscrivent dans une démarche de critique sociale, c'est sûr.
C'est donc avec François-Xavier Drouet, le réalisateur du film documentaire intitulé « La chasse au snark », un film présenté dans le cadre du festival Jeden Svět à Prague, que s'achève le bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Ahoy !